RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. C'est la journée internationale de la biodiversité aujourd'hui et vous avez entendu dans un premier temps un sujet sur la COP15 hein, qui s'est tenue à Montréal en décembre dernier. On va voir jusqu'à 11h comment préserver la biodiversité. C'est toujours une rediffusion du 10 janvier, donc merci de ne pas appeler le standard. Bonne écoute. Et nous continuerons d'agir à 10h55, comme chaque lundi, en parlant de santé mentale. On évoquera avec Anne-Gaëlle Guillol de la Fondation Falleret un phénomène vertigineux et difficile à appréhender. Nous sommes entrés dans l'ère de l'intelligence artificielle générative et celle-ci aura assurément un impact sur nous et notre santé mentale. On verra ça en toute fin d'émission. Bonjour Gabriel Goetz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de nos studios qui se trouvent à Strasbourg. Merci à Nicolas qui vous accueille ce matin sur place. Vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle Biodiversité pour tous. Alors avant d'entrer dans tout ce que vous faites, parce que vous faites beaucoup de choses dans l'association, j'aimerais vous entendre sur votre lien peut-être personnel à la nature, à la biodiversité.
Alors j'ai eu la très grande chance de vivre de façon très proche de la nature. Mes grands-parents, du côté maternel, étaient agriculteurs, enfin paysans plutôt à l'époque. Et tous les dimanches, je les passais à courir dans les champs, dans les prairies, avec tous les animaux de la ferme. Enfin, c'était une vision un peu idyllique de la nature. Et puis bon, c'est quelque chose qui m'a marquée et qui m'a poursuivie tout le restant de ma vie, voilà.
Tout le restant de votre vie jusqu'en 2013, puisque vous avez fondé cette association Biodiversité pour tous. Je crois que c'est parti d'un concept que vous avez repéré en Suisse.
Exact. En Suisse, ça fait pas mal d'années que l'Office fédéral a fondé une fondation qui s'appelle Nature et Économie. Et cette fondation a pour objectif d'inciter les entreprises à dédier une partie de leurs espaces extérieurs à la biodiversité. Et pour cela, ils ont mis au point un label avec un certain nombre de critères très simples, hein, du genre 30% en espace le plus proche possible de l'état naturel, un maximum de plantes endémiques, suppression des pesticides. Enfin bon, je ne vais pas lister tous les critères, mais c'est des choses très très faciles à atteindre. Et là, ils en sont à plusieurs millions de mètres carrés qui ont été renaturés. Et il y a vraiment une émulation entre les entreprises. Et oui, je trouve que c'est quelque chose, c'est un concept qui est vraiment, qui mérite qu'on s'y attarde.
Et c'est ce que vous avez tenté de faire hein, dans cette association Biodiversité pour tous.
Alors nous, on n'est pas une émanation du gouvernement français. On part de la base, mais notre objectif est le même, c'est de montrer aux entreprises et puis à tous les autres acteurs de la société que des solutions existent et que ces solutions sont efficaces.
Avec une mission principale, celle de promouvoir et de préserver la biodiversité de notre quotidien, mais avec des acteurs justement, des acteurs privés, publics, des entreprises, des collectivités, des écoles et j'en passe, car vraiment vous faites beaucoup de choses. Ça a été compliqué à monter une association comme ça ?
Dans les années 2013, oui. La création d'une association est un processus assez simple, d'autant que nous, en Alsace, nous bénéficions du droit local, qui est encore plus simple que le droit français en matière de création d'associations. Mais c'est sûr que on était un peu en avance sur pour l'époque,
ben oui.
Et il y avait très très peu de gens qui s'intéressaient à la question de la biodiversité, et il a fallu par moments être extrêmement motivé pour s'accrocher et continuer. Et c'est vrai que maintenant, 10 ans plus tard, la biodiversité occupe beaucoup plus le devant de la scène.
Quelle a été votre approche justement ? On en parlait dans la première partie de l'émission, et vous faites bien de le dire, c'est que autant on a beaucoup parlé des COP sur le climat, le dérèglement climatique, la biodiversité, C'est ancien hein, comme terme, mais pourtant c'est quand même très nouveau dans la sphère médiatique. Quelle a été votre approche en 2013 pour aller parler aux collectivités, pour aller parler aux entreprises ou aux écoles de ce sujet ?
Il y a eu plusieurs approches. La première, c'est fondamentalement de montrer les avantages que les gens peuvent tirer de la biodiversité. En termes d'image, en termes d'actes citoyens, en termes d'adaptation au changement climatique, en termes de lutte contre le changement climatique, on a essayé de montrer tous les avantages que qu'apportait la biodiversité dans notre quotidien.
Un petit mot, Gabriel Goetz, sur la COP15 de la biodiversité qui s'est tenue à Montréal en décembre. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la suivre ?
Alors, je ne vous cacherai pas que je ne suis plus ce genre d'événement.
Ah bon ?
Parce que je trouve que c'est beaucoup d'énergie qui... Bien sûr, il faut s'investir là-dedans. Il faut trouver des solutions au niveau international. Mais je trouve que dans notre quotidien, ça ne nous apporte pas grand-chose. Voilà. C'est peut-être une vision un peu radicale, mais je trouve que ça a un côté un peu déprimant.
Ouais, vous n'êtes pas la seule hein, à penser ça. Alors autant on peut trouver un petit peu d'espoir, notamment dans ce texte qui a été adopté le dernier jour de cette conférence internationale, qui devrait permettre, on espère bien sûr, hein, d'empêcher les atteintes aux vivants causées par l'humanité. Mais beaucoup de personnes disent qu'en effet, c'est une réunion comme une autre et que finalement, quand on voit les résultats de la COP21 sur le climat qui avait été marquante à l'époque, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de retard. Donc c'est ça qui vous fait baisser les bras, même si finalement vos bras sont quand même très actifs avec cette association dont vous présidez. Mais toutes ces COP, toutes ces réunions, tous ces grands événements, finalement, ça vous intéresse pas tant que ça ?
Non, pas vraiment, parce que J'ai malheureusement pu constater que il y avait d'un côté les gens qui parlaient, qui écrivaient des beaux textes, et puis il y avait la réalité sur le terrain, et il y a un tel hiatus entre les deux. Franchement, j'ai pris la décision de ne plus me préoccuper de tous ces ces grands décideurs et de m'occuper
de ce que vous faites,
me tourner davantage vers les gens qui veulent agir et qui sont investis à fond dans le quotidien.
Et il y en a beaucoup des gens qui veulent agir. Si on entre un peu plus dans tout ce que vous faites dans l'association Biodiversité pour tous, alors je cite par exemple la sensibilisation, c'est un point qui est très important dans l'association, la renaturation de certains sites, et puis l'audit également d'espaces verts, c'est peut-être une première étape. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre approche, votre démarche ?
Alors, effectivement, nous avons de très nombreux leviers d'action. Les audits, ça se passe essentiellement au niveau des sites des entreprises pour déterminer ce qu'il y a déjà sur ce site en termes de biodiversité, quelle est la faune et la flore existantes. De le situer également dans un contexte beaucoup plus vaste pour voir s'il y a des trames vertes et bleues à proximité, s'il y a un espace naturel protégé, s'il y a une zone Natura 2000. Ça, c'est donc un premier point. Ensuite, très souvent, nous établissons des préconisations de plantation. Alors, nous, il nous semble très important de co-construire cela avec nos interlocuteurs, de bien être à l'écoute de leurs envies, de leurs besoins, de leurs contraintes. Parce que quand on agit en milieu urbain, il y a très souvent des contraintes dont on n'a même pas idée. Rien qu'en termes de sol de très mauvaise qualité, les réseaux souterrains, enfin, tout ça, c'est des choses dont il faut tenir compte. Et donc, il y a vraiment une co-construction avec nos interlocuteurs, parce que souvent aussi, les gens ont envie de faire des choses petit à petit, ils n'ont pas forcément le budget adéquat pour mener le projet à bout d'entrée de jeu. Donc souvent, nous agissons sur plusieurs années. Et petit à petit, les choses se construisent d'une année à l'autre. Ensuite, oui, effectivement, nous faisons pas mal de sensibilisation. Alors, au niveau des entreprises, au niveau des co-quartiers, au niveau
des écoles aussi,
d'autres associations. Et souvent, la sensibilisation passe également par des actions directement sur le terrain. Je trouve qu'il n'y a rien de tel que de prévoir une sortie avec des enfants ou avec d'autres personnes et de leur montrer petit à petit, au fil de la balade, toutes les richesses de ce qui nous entoure. Et enfin, nous délivrons un label de qualité qui est copié sur le modèle suisse.
Ah, donc c'est très complet. Si on se penche sur l'audit de site, alors c'est cette prestation que vous avez présentée il y a quelques instants. Est-ce que vous avez un exemple de ce que vous avez pu faire du côté de Strasbourg et de sa région ?
Non, l'audit, c'est quelque chose que nous réalisons assez peu souvent.
Oui.
Nous sommes beaucoup plus dans les préconisations. C'est souvent une étape qui est zappée par les entreprises et par les autres acteurs, parce que ils veulent rentrer directement dans le concret, directement dans l'action efficace.
Alors la sensibilisation du coup, est-ce que vous avez là aussi des exemples à nous présenter, peut-être avec les habitants d'un quartier ou même avec les écoles?
Là, nous avons en projet dans les jours qui viennent de faire une séance de sensibilisation et de plantation directement sur un terrain avec des élèves, enfin des jeunes lycéens. Et donc nous prévoyons de leur exposer clairement déjà qu'est-ce que c'est que la biodiversité, pourquoi c'est important, quelles sont les causes de cet effondrement, et ensuite leur présenter toutes les solutions qui sont efficaces et qui sont à mettre en œuvre.
Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont
Le groupe Bon Entendeur, le temps est bon sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Avec notre invité Gabrielle Goetz, vous êtes la présidente de l'association Biodiversité pour tous. Gabrielle, j'aimerais qu'on parle des hirondelles. Je crois que c'est quelque chose qui vous touche énormément, puisque entre les années 1970 et 2021, je vous cite, c'est 90% des hirondelles qui ont disparu. C'est une disparition qui se fait sans bruit, en toute discrétion. C'est ce que vous avez pu dire à nos confrères de RCF à Strasbourg. Ça vous touche personnellement ?
Énormément, parce que c'est un de mes oiseaux préférés. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de les regarder un soir d'été dans le ciel. C'est un babillement absolument délicieux, et puis et elle vole avec une telle légèreté. Enfin, c'est un vraiment un magnifique spectacle. Et donc, pourquoi elles disparaissent, ces hirondelles? Alors, première cause, c'est déjà la question des pesticides qui nous tuent nos insectes en grand nombre. Il y a des recherches qui avaient été menées il y a quelques années en Allemagne, et ils ont détecté que dans certains endroits, il y avait entre 70 et 80% des insectes qui avaient disparu. Donc, les insectes constituent la première source de nourriture des hirondelles. Ensuite, une problématique toute simple. Elles ne trouvent plus suffisamment d'argile pour confectionner leur nid également. Et enfin, troisième point, c'est que très souvent, les gens n'ont pas envie d'avoir des nids d'hirondelles accrochés à leur maison, ouais. Parce que voilà, ça salit la façade. Alors que il existe des solutions, il y a des sortes de petits supports qui recueillent les fientes des oiseaux qu'on peut facilement accrocher à sa façade, mais voilà, c'est une question de mentalité, et je crois que il est très important que les gens se rendent compte de l'importance de laisser ces oiseaux. Si on a la chance qu'il y a un couple qui s'installe sur votre au niveau de votre toiture, et ben laissez-la. Franchement, laissez ces hirondelles, parce que elles disparaissent vraiment à la vitesse grand V.
Ouais, c'est une manière de restaurer la fraternité. Vraiment dans son jardin, proche de chez soi.
Oui. Et les solutions, notre association se préoccupe essentiellement de la biodiversité ordinaire. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que la biodiversité ordinaire ? C'est la biodiversité qu'on trouve devant notre porte, sur nos lieux de vie, nos lieux de travail. C'est les hirondelles, c'est les moineaux, c'est les plantes ordinaires qui, elles aussi, sont en train de disparaître. Et justement, les solutions existent. Il y a des choses toutes simples à mener. Si par exemple vous habitez en ville et que vous n'avez qu'un rebord de fenêtre ou qu'un balcon, eh ben au lieu de planter des géraniums ou des pétunias, essayez de choisir des variétés des plantes locales qui fleurissent plus longtemps et qui fournissent de la nourriture à nos insectes. Vous avez par exemple les achillées, les marguerites, les sauges locales, les lavandes aussi sont des plantes extrêmement mellifères. Donc essayez autant que possible de planter soit des plantes locales, oui. Ou alors au moins, si vous optez quand même pour des plantes horticoles, essayez d'en sélectionner des espèces qui soient mellifères.
Vous, Gabrielle Goetz, je crois que vous êtes petite fille d'agriculteur.
Exact.
Vous avez été, je suis bien renseigné, hein. Vous avez été baignée vraiment par cette nature. Vous avez appris à contempler la nature. C'est un terme qu'on aime beaucoup ici, RCF, la contemplation. Qu'est-ce que c'est pour vous de contempler la nature?
Oh, c'est difficile. C'est quelque chose de tellement énorme, la nature. C'est quelque chose de tellement complexe, de tellement beau. Plus on admire tout ça, on voit toutes les interactions entre tous les éléments qui la composent. C'est quelque chose d'absolument fabuleux et apaisant, et se dire que voilà, qu'on fait partie de ce grand tout, et ben ça nous ramène à beaucoup plus d'humilité.
Biodiversité pour tous, c'est le nom de cette association que vous avez fondée en 2013. Pourquoi pour tous ?
Ben, parce que c'est notre objectif, c'est de toucher vraiment tous les acteurs de la société. Alors, que ce soit les entreprises, que ce soit les écoquartiers, les particuliers, les scolaires, les établissements hospitaliers, nous apportons des solutions pour tout le monde, et des solutions qu'on essaye d'être le plus pragmatique possible, le plus économique possible aussi, parce que très souvent, le fait de basculer vers des solutions plus proches de la nature permet de réaliser des économies. Si vous avez par exemple un gazon, vous le tondez chaque été entre 15 et 20 fois. Eh ben, si vous laissez pousser un tout petit peu ce gazon et ne plus essayer de le transformer en gazon anglais, ce qui est assez illusoire et utopique sous nos latitudes et avec le changement climatique, eh ben, si vous le laissez pousser un peu, et voire même si vous le laissez retourner à son état naturel, eh ben, rien que là, ça vous permet de réaliser des économies en termes d'entretien de votre espace vert.
C'est ce que disent beaucoup de jardiniers d'ailleurs, hein. Ne tondez pas votre pelouse, votre gazon, ou alors si vous tondez, ne nettoyez pas votre jardin. C'est intéressant ça.
Oui, c'est une façon de retourner de la matière organique au sol, et le retour de cette matière organique justement est un facteur qui permet de revivifier les sols et d'apporter à nouveau une certaine vie dans le sol.
Alors, on entend que vous proposez beaucoup de choses, beaucoup de solutions dans cette association Biodiversité pour tous. Vous mettez en place également des ateliers créatifs. Là aussi, c'est très concret pour confectionner, par exemple, des hôtels à insectes. Est-ce que vous pourriez nous préciser tout cela ?
Oui, récemment, nous avons eu l'opportunité de créer un grand hôtel à insectes au sein de l'écoquartier Danube, avec les membres de l'association Arche. Et effectivement, cette confection d'un hôtel à insectes peut être très simple, hein. Si vous pouvez toujours acheter cela dans le commerce, mais si vous récupérez un morceau de tronc d'arbre avec un bois dur qui a déjà un peu séché, eh ben il suffit de vous armer d'une perceuse et de différents forêts, et vous forez des orifices de différents diamètres. Et surtout, vous veillez à ce que les pourtours soient dépourvus de ces petites échardes qui risquent d'abîmer les ailes des insectes qui nidifient dans ces orifices. Et vous l'installez ensuite sur un rebord de fenêtre ou une terrasse. Mais attention de l'installer au sec. Parce que j'ai pu observer des hôtels à insectes qui étaient dirigés plein ouest, et donc ils étaient rincés régulièrement par les pluies, et les insectes ne s'installent pas dans une telle configuration. Donc un hôtel à insectes est quelque chose de très facile à confectionner, et vous essayez de trouver aussi quelques branches de sureau ou de roseau, et vous en faites des petits fagots que vous serrez bien, et vous installez tout ça dans une sorte de boîte en bois, et voilà, ça vous permet d'avoir un hôtel à insectes tout à fait efficace et à très peu de frais.
Un auditeur, Mathieu, nous a envoyé un mail et nous dit « Il faut planter des arbres ». Alors, il y a d'abord les plantations nécessaires au renouvellement du parc forestier pour la production de bois, d'habitation et de papier. Mais en plus, il faudrait augmenter la quantité d'arbres pour absorber le CO2 et préserver la biodiversité, préserver l'effet canapé en ville, etc. Mathieu qui nous dit qu'à Lyon, par exemple, il trouve qu'on manque d'arbres par rapport à une ville comme Limoges, où il sent que la végétation est beaucoup plus présente et très bien entretenue. La plantation des arbres, c'est quelque chose que, j'allais dire, qui vous tient à cœur, ou en tout cas que vous essayez de prendre en considération au sein de l'association Biodiversité pour tous.
Ah oui, c'est le cœur de notre activité. Les arbres, la plantation d'arbres est absolument essentielle pour tellement de raisons. En termes de capacité d'absorption du CO2, en termes de fraîcheur, l'ombrage, il n'y a pas plus agréable que l'ombrage d'un arbre. Hein. Et en termes de biodiversité, si on prend par exemple le chêne est un arbre absolument fabuleux. La plantation d'arbres est absolument essentielle. Primo, parce que ils stockent une quantité importante de carbone dans leurs racines, et plus l'arbre vieillit et plus il stocke du carbone. L'arbre est essentiel également, surtout en ville, parce que à cause de son évapotranspiration, il apporte son feuillage apporte de la fraîcheur. Si vous installez en ville dans un café, eh ben rien de plus agréable que de s'installer sous l'ombrage d'un arbre. L'arbre également est un extraordinaire support de la biodiversité. Si on prend l'exemple du chêne, le chêne est une variété qui accueille entre 300 et 400 espèces vivantes. Donc les arbres, effectivement, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, j'aimerais quand même rajouter un point qui est que si vous plantez, c'est très important de choisir des espèces locales. Alors pourquoi choisir des espèces locales? Parce que au fil du temps, notre faune s'est adaptée à notre flore et réciproquement, il y a une synergie entre les deux. Et très souvent, des espèces horticoles ou des espèces exotiques, soit ne fournissent pas la nourriture aux oiseaux, ne leur en fournissent pas du tout, oui. Soit les insectes n'ont pas la morphologie qui leur permette d'accéder à la nourriture qui est présente sur cet arbre. Donc là, le choix des espèces locales est vraiment très important.
Et typiquement, dans l'association Biodiversité pour tous, est-ce que vous avez un exemple de projet que vous avez pu mettre en place, peut-être avec une collectivité, avec une entreprise autour des arbres?
Oui, alors l'an dernier, nous avons planté ce que nous appelons la mini-jungle. C'est un espace d'une centaine de mètres carrés qui avait été mis à la disposition des habitants de l'écoquartier Danube à Strasbourg. Et avec l'association des habitants du quartier, nous avons décidé d'entièrement végétaliser cet espace et pour cela de le faire en fonction des préceptes de ce fameux botaniste qui est très en vogue actuellement, Miyawaki. Et donc nous avons planté de façon très dense, nous avons planté entre 3 et 5 petits plants par mètre carré, ce qui est extrêmement dense. Et là, cette végétation, en l'espace de quelques mois, elle dépasse par endroits déjà les 2 mètres, voire 2 mètres 50 de haut. Donc, c'est des techniques qui sont efficaces et ça apporte vraiment ce qu'on appelle un îlot de fraîcheur dans le quartier.
Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant, toujours dans le cadre de cette rediffusion consacrée à la biodiversité en cette journée internationale. À tout de suite. Vous aimez bien les tournesols, Gabriel Goetz ?
Énormément, énormément. C'est bien de rebondir là-dessus parce que justement, je m'apprêtais à le faire également. Les tournesols, c'est important parce que ça fournit de la nourriture à ce qu'on appelle les oiseaux granivores. Et notamment, récemment, j'ai pu observer des chardonnerets qui sont donnés à cœur joie sur un tournesol. Et on oublie trop souvent que certains oiseaux sont en train de disparaître, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture. Parce que on plante beaucoup de végétaux, mais ce ne sont pas forcément des végétaux qui fournissent de la nourriture à notre faune. Et c'est un point qu'il faut souligner. Si vous plantez des arbres, si vous plantez des arbustes, attention au choix des variétés et c'est important de choisir autant possible des espèces qui fournissent soit des baies,
dont les oiseaux
peuvent se nourrir, soit qui fournissent du nectar pour les insectes afin qu'ils puissent s'en nourrir également.
En tout cas, les tournesols, c'était Marc Lavoine sur RCF.
Vous écoutez une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard.
Et avec notre invité jusqu'à 11h, Gabrielle Goetz, vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle Biodiversité pour tous. Véronique nous a rejoint. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour, tous mes voeux.
Merci.
Voilà, et puis merci pour vos émissions. Et puis je voulais dire que moi je ne fais pas partie de l'association, mais je suis écolo dans l'âme depuis tout le temps. Et que notre façon de vivre, elle peut vraiment protéger la biodiversité. C'est-à-dire de choisir de manger bio, de choisir tout ce qu'on va consommer en manger, mais en vêtements, parce que là maintenant, j'ai un nouveau dada. Ça vient petit à petit, mais c'est d'avoir appris par exemple que quand on fait la lessive avec des produits, des vêtements synthétiques, maintenant on en trouve beaucoup plus que tout le reste, et ben ça dégage du plastique qui va recouvrir les coraux et qui détruit les coraux. Et donc du coup, ben de n'acheter plus que du coton ou du lin ou voilà. Et puis aussi de faire sa lessive, par exemple, de n'utiliser que. On n'a pas besoin de tous ces produits ménagers. Vous faites avec du vinaigre blanc, de bicarbonate de soude et du savon noir, et vous avez tout ce qu'il faut. Pareil pour vous laver, vous achetez un bon savon et vous n'avez pas besoin de tous ces produits emballés dans du plastique qui font des déchets. Je ne vais pas répéter ce que la dame elle dit pour le jardin avec lequel je suis tout à fait d'accord et que j'essaye de pratiquer. J'ai planté quelques plants de courgettes et comme je rentrais chez moi que tous les 15 jours, j'avais des courgettes qui faisaient 3 kilos que j'ai distribuées dans le quartier. Voilà.
D'accord.
Et donc notre façon de vivre vraiment et de consommer protège la nature et la biodiversité. Et puis une dernière petite chose que je voulais dire, c'est que il y a récemment... c'est puissant, comme dit madame, qui ont décidé que 30% de la nature allait être protégée. On peut penser que c'est très bien, mais moi je fais partie d'une association qui s'appelle Survival International. Et il faut être très vigilant parce que dans ces décisions, des fois, il y a qu'on fait partir les peuples premiers qui sont dedans. On les met dehors de leur terre. Soi-disant, on va protéger la nature plus que ces peuples-là. Et donc, on les met de dehors, ils vont dans les bidonvilles et on les empêche de revenir chez eux. Et donc, ça, c'est...
Et ça rejoint ce qu'on disait également dans la première partie de cette émission sur l'homodiversité en lien avec la biodiversité. Je vous remercie beaucoup, Véronique, d'être venue à l'antenne, de nous avoir parlé de tous ces sujets. Gabrielle Goetz, ce que j'ai entendu, moi, à travers ce témoignage, c'est que finalement, c'est à nous de changer nos habitudes de consommation. Elle parlait beaucoup du plastique. Véronique, c'est quelque chose qui vous touche, j'imagine, et ça doit faire partie aussi de vos ateliers de sensibilisation.
Oui, il y a deux façons d'aborder la... Enfin, il y a plein de manières d'aborder la biodiversité. Il y a cette façon dont parlait cette auditrice qui est de prendre le problème dans son extrême complexité. Parce que c'est sûr que la question des déchets, la question de notre consommation, elle est au centre de cette problématique de la biodiversité, tout comme elle est au centre de cette problématique du climat. En fin de compte, c'est les deux faces d'une même pièce. Hein. C'est l'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est une façon de voir, mais qui est d'une extrême complexité. Et nous, par contre, nous avons choisi délibérément de nous focaliser que sur l'aménagement des espaces extérieurs,
oui.
qui est déjà,
un gros sujet. Hein.
Ouais. Qui est déjà un sujet bien, vaste. Nous avons choisi de, nous cantonner à ça dans un souci d'efficacité. Donc, voilà. Mais c'est sûr que la question de la biodiversité est un, problème qui, touche à notre vie dans tout, ses aspects. Ça, c'est une évidence.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour, bonjour à vous tous.
On vous écoute.
J'ai un grand terrain de plus d'un hectare. Avec j'ai deux poneys qui sont ces deux petits poneys et j'aimerais pouvoir faire je sais pas comment une prairie et je ne fais pas partie d'association, je fais partie de rien, mais j'avais envie de faire une prairie et je ne sais pas comment faire.
Ah voilà. Bah, c'est une vaste question là aussi. Merci beaucoup Jacqueline dans, votre petite prairie. Gabriel Goetz, je vous lirai quelques remarques d'auditeurs qu'on a reçues par mail justement sur tous ces jardins, toutes ces propositions que vous avez données tout à l'heure. C'est intéressant ce message de Jacqueline qui a dans son jardin un grand pré qui voudrait en faire une prairie avec des fleurs. Comment est-ce qu'elle peut s'y prendre? Est-ce que vous mettez en place une méthode ou des conseils très simples?
Alors, d'entrée de jeu, c'est délicat de la conseiller sans avoir vu l'endroit.
Ah oui.
Ça, premier point. De ce qu'elle décrit, c'est sûr qu'il faudrait voir le terrain en question. Mais de ce qu'elle décrit, j'ai envie de lui dire qu'elle clôture ce terrain, qu'elle mette ses poneys et le pâturage des poneys entraînera automatiquement l'apparition d'une diversité au niveau des herbes qui poussent. La mise en pâturage est l'une des façons les plus efficaces de développer la biodiversité. Donc, j'ai envie de lui dire qu'elle fasse un minimum, qu'elle clôture, qu'elle mette ses poneys et qu'elle patiente en quelques années. Elle se retrouvera avec une magnifique prairie en principe.
Le retour des poneys, ça me fait rire ce mot.
Mais il faudrait vérifier ça sur place, c'est sûr. Ça, c'est le principe de base.
Une question d'une auditrice, d'un auditeur, j'ai pas le prénom, donc bon, c'est pas grave, qui nous dit: que dire des jardins de pierre? C'est un désastre écologique. Logique, nous dit cet auditeur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Gabriel?
Oui, d'autant plus que très souvent, pour éviter que l'herbe ne pousse entre les pierres, les paysagistes ont tendance à mettre des géotextiles en dessous. Et donc, ça veut dire la mort du sol, parce que pour qu'un sol soit vivant et qui ait toute cette vie qui puisse se développer dans le sol, il faut qu'il y ait des échanges entre ce qui est à la surface et ce qui est sous la surface. Donc, oui, effectivement, je pense que ces jardins de pierre, c'est un côté très pratique parce qu'il n'y a pas grand-chose à entretenir. Mais en termes de biodiversité, effectivement, c'est assez désastreux.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Gabriel Goetz, de votre mini-jungle. Hein, c'est un terme qui nous a fait doucement rire, mais on l'imagine très bien. Marie-Claude se demande: quelles sont les 4 ou 5 plantes que vous plantez dans cette mini-jungle?
Alors, je ne sais plus exactement combien nous en avons planté, mais nous en avons planté plusieurs dizaines d'espèces différentes. Nous avons fait une sélection de toutes les arbustes qui poussent dans un périmètre d'une centaine de kilomètres. Alors, il y a des sureaux, il y a des viornes, il y a des églantiers, il y a des... Des charmes, il y a des érables champêtres, j'en oublie tout plein, mais
ah ben c'est déjà pas
voilà,
mal. Hein.
Enfin, grosso modo, ouais. Grosso modo, le genre d'espèces que nous avons plantées dans cette mini jungle.
Des espèces locales, du coup, en Alsace
pour
local,
vous. Oui, ouais. Que du local, oui, que du local. Du local et oui, nous veillons quand nous plantons du local, nous veillons également à sélectionner quand même des espèces qui sont résistantes et aux canicules et à la sécheresse. Par exemple, nous ne planterons jamais de bouleau. C'est un arbre magnifique que j'aime beaucoup. C'est une espèce qu'on appelle pionnière, c'est-à-dire qu'elle se développe en premier sur un sol qui a été défriché ou dénudé pour une raison quelconque. Mais malheureusement, le bouleau est extrêmement sensible à la sécheresse et c'est une variété que nous ne plantons absolument pas, ouais. Parce que nous, notre objectif, quand nous faisons une plantation,
c'est qu'elle reste.
C'est de faire quelque chose pour les 20, 50, 100 années à venir. Ouais. Bien sûr, Dieu seul sait tout ce qui peut arriver d'ici là, mais c'est dans cette optique-là que nous plantons. C'est pas pour faire quelque chose pour les 3-4 années qui viennent. Parce que il y a un point qui est très important aussi, qu'on ne souligne pas assez, c'est que la biodiversité se développe d'autant que l'arbre vieillit. C'est dans les très vieux chênes, c'est dans les très vieux hêtres qu'on trouve la plus grande richesse. Et c'est absolument essentiel de préserver autant que possible les vieux arbres, les grands et les vieux arbres.
Nicole nous a laissé un message dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Elle nous dit: le fleurissement des villes pourrait être pensé aussi pour accueillir la biodiversité. Plantes locales, pérennes, ne nécessitant pas de traitement phytosanitaire. Dommage que lors du concours des villages fleuris, on n'en tienne pas davantage compte. Ah, c'est intéressant ça aussi, ce message de Nicole.
Oui, hein. C'est sûr que là, à terme, je pense qu'il faudra un moment ou un autre que les critères de ces villages fleuris changent un petit peu. Parce que c'est vrai que planter des variétés locales, il y en a qui sont très belles, hein, les marguerites, les centaurées, les sauges, les linaires, les scabieuses, tout ça, ce sont des fleurs qui se succèdent au fil des saisons et qui ont beaucoup de cachets, beaucoup de charme et qui présentent évidemment beaucoup d'intérêt pour la biodiversité. Donc on commence à noter une évolution parce que en termes de coûts remplacer ces fleurs au printemps on met des pensées, ensuite c'est les pétunias, les géraniums, ça représente un coût non négligeable pour les collectivités et nous avons déjà travaillé là-dessus pour justement proposer des solutions pérennes aux collectivités pour que voilà il y ait des plantes qui soit se ressèment d'elles-mêmes, soit reviennent d'une année sur l'autre. Et c'est sûr que ça constitue une source d'économie considérable pour les collectivités.
Gabriel Goetz, il y a une tradition dans Je pense donc j'agis, c'est de parler santé mentale, le lundi notamment. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec notre chroniqueuse. Et oui, folie ordinaire, agir pour notre santé mentale avec la Fondation Falleret, comme tous les lundis. Bonjour Anne-Gaëlle Guillol.
Bonjour Melchior.
Alors on parle ce matin d'un phénomène vertigineux et difficile à appréhender, car nous sommes entrés dans l'ère de l'intelligence artificielle générative, et celle-ci aura assurément un impact sur nous et notre santé mentale, bien sûr.
Et oui, cette technologie nouvelle va en effet changer nos sociétés et nos perceptions de la réalité. Il y a quelques semaines, le chercheur Geoffrey Hinton, primé en 2018 pour ses recherches sur l'intelligence artificielle, a annoncé son départ de Google. Dans des déclarations s'apparentant à un repentir, il a alerté sur les menaces de l'intelligence artificielle, ses dérives et son pouvoir à surpasser l'intelligence humaine.
Ce qui fut longtemps fiction est en train de devenir réalité. On l'entend, l'intelligence artificielle générative peut créer de manière autonome des images, des textes, des vidéos sur Internet. En fait, elle imite les créations humaines.
Oui, elle s'y substitue même. Pour s'en faire une idée, prenons le film Her de Spike Jonze. C'est l'histoire d'un divorcé esseulé qui s'installe sur son ordinateur un système d'exploitation à la voix de femme, capable de tenir la discussion et de singer les émotions. Il en tombe en fait amoureux. Ce film est sorti en 2014. Et moins de 10 ans après, en 2023, l'histoire se rejoue cette fois-ci pour de vrai, et tragiquement, puisqu'en Belgique, un homme a noué une relation affective avec un robot conversationnel, Elisa. Rongé par l'éco-anxiété, il s'est réfugié dans cette relation virtuelle, isolé de sa famille et sous influence, et il s'est finalement laissé conduire au suicide.
Et quand le virtuel fait illusion, on peut s'y tromper.
Oui, et cela est clair sur notre condition d'humain. Nous éprouvons des sentiments, des émotions sincères, contrairement aux machines, dénuées d'âme, mais qui ne sont pas dénuées d'attrait. Tomber sous le charme d'une image, d'une représentation est humain. Dans la mythologie grecque, déjà, le sculpteur Pygmalion est envoûté par sa création Galatée. Les émois amoureux des enfants, pour des personnages de livres et de dessins animés, sont également tout à fait authentiques.
Et il y a tellement d'œuvres de science-fiction qui décrivent très justement les écueils de demain. Mais quels sont les dangers et bien sûr les garde-fous?
Eh bien, les dangers pour notre santé mentale et notre sécurité s'avèrent bien réels. Il y a par exemple l'addiction à ces technologies, l'isolement social qui en découle, les conséquences du cyberharcèlement, de la manipulation des informations et de la désinformation. L'intrusion dans notre vie par la surveillance et la collecte de données personnelles est une véritable menace pour notre vie privée et notre sécurité, sans parler des cyberattaques. On entrevoit aussi le remplacement de certains métiers par l'intelligence artificielle, l'exacerbation des inégalités socio-économiques existantes. Je ne pourrais pas tout énumérer, mais ce qui est ironique, c'est que cette liste de dangers ô combien longue provient d'une intelligence artificielle, le ChatGPT, qui conclut ainsi. En somme, il est crucial de prendre en compte ces dangers potentiels pour développer et utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable et éthique.
Merci Anne-Gaëlle Guillol pour ces réflexions captivantes sur l'intelligence artificielle et la santé mentale. Gabriel Goethe, une chose est sûre, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais la biodiversité.
Je vous parlerai juste de mon jardin. J'ai la chance d'avoir personnellement un grand jardin. Et jusqu'à 2013, j'entretenais ce jardin comme tout le monde. Hein. Il m'arrivait d'utiliser de la bouillie bordelaise, de tondre, de tailler, de voilà. Et puis j'ai fondé cette association. J'ai au fil du temps découvert de plus en plus que c'était cette biodiversité, et puis avec sa beauté et sa fragilité, comme vous disiez. Et j'ai commencé à changer des petites choses. Je tombe moins, je plante des arbres locaux, je n'utilise vraiment plus de produits. Je mène des petites actions comme ça, et finalement, je me retrouve dans mon jardin avec des orvées, des mantes religieuses, des hérissons, des oiseaux par dizaines. Et c'est ça qui est intéressant quand on agit pour la biodiversité, c'est que il suffit de changer quelques petites choses, de faire quelques efforts qui sont pas qui ne coûtent pas très cher, qui ne nécessitent pas beaucoup d'investissement, et le résultat est là, la modification est là, et vous voyez que la nature revient, que les effets sont à portée de main.
Merci Gabrielle Goethe d'avoir été avec nous sur RCF, et je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Biodiversité pour tous, dont on peut retrouver plus d'informations sur le site biodiversitépourtous.fr. C'est déjà la fin de cette rediffusion de Je pense donc j'agis. Très belle journée à tous à l'écoute d'RCF.